France Inter, franceinter.com.
Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas arrivées à un même degré de culture et de les appeler au progrès. Léon Blum, 9 juillet 1925. Ans d'histoire. Depuis que les Français ont perdu leur colonie, ils ne cessent de dénoncer les crimes qui y ont été commis. On est loin de la fierté qu'ils éprouvaient autrefois devant les taches roses, qui sur les cartes de géographie indiquaient tous les territoires qu'ils avaient conquis et tous les peuples auxquels ils prétendaient avoir apporté la civilisation. Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas arrivées à un même degré de culture, disait même Léon Blum à la Chambre des députés le 9 juillet 1925. C'était l'époque où l'Empire colonial était une espèce de Far West français dont les héros s'appelaient Savornian de Brazza, Francis Garnier, Lyautey, Faidherbe ou encore Jules Ferry, qui à la fin du 19e siècle justifiait la colonisation dans les mêmes termes et avec le même lyrisme que le faisaient 50 ans plus tard les actualités de 1937, lorsque l'Empire colonial français était à son apogée.
À l'heure où certaines revendications coloniales semblent vouloir s'affirmer, Pathé Journal croit nécessaire de présenter ce rapide inventaire de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour à l'abri de nos couleurs. Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale, une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
Jean-Pierre Rioux, bonjour.
Bonjour.
Alors qu'il n'est plus question aujourd'hui d'admettre que la colonisation ait pu avoir des aspects positifs et qu'on ne retient plus que ses crimes, on imagine mal les actualités parler aujourd'hui de l'Empire français comme elle le faisait, on vient de l'entendre, il y a 70 ans, dans l'archive que l'on vient d'entendre. Vous le rappelez vous-même dans un dictionnaire de la France coloniale, publié sous votre direction, aux éditions Flammarion. Alors à l'époque, vous le dites, les Français étaient plutôt fiers de leur empire et de la colonisation, alors qu'aujourd'hui, ils en ont honte.
Oui, sans doute. Fier serait à modérer, parce qu'au fond, la majorité de l'opinion n'a pas toujours partagé les enthousiasmes des groupes de pression, des lobbies qui très actifs, et même des politiques qui, pour des raisons d'affirmation de la puissance, ont dit, écoutez, l'avenir de la puissance française passe par son empire colonial. C'est bien plutôt ça, d'ailleurs, la vraie question, entre dénigrement d'un côté aujourd'hui ou exaltation de quelques-uns quelques décennies, c'est qu'au fond, nous ne sommes pas certains, après avoir un peu travaillé à travers ce dictionnaire sur cette immense question de la colonisation contemporaine, celle qui s'est donnée un côté un peu plus systématique et un peu plus impérial au 19e et au 20e
siècle. Vous voulez dire par rapport à la première étape de la colonisation qui date de Louis XIV,
de l'Ancien Régime,
du 19e siècle,
qui elle était beaucoup plus liée à des intérêts économiques assez clairs, mercantiles finalement, à des intérêts aussi qui touchent à la traite de l'Afrique vers les Antilles.
Et là, c'était un premier empire qui a disparu, il faut le rappeler, sous Louis XV, pour l'essentiel, avec le Canada, la Louisiane,
etc. Avec les possessions d'Amérique ont été liquidées, et Napoléon n'a fait que, en cédant la Louisiane, qu'enregistrer, au fond, cette longue déconfiture. Non, il y a quelque part, au 19e siècle, c'est vrai, l'idée que la France, qui a quand même... l'idée de bâtir un nouvel empire colonial né au fond après 1815, au moment où l'Europe napoléonienne est après Waterloo. Voilà. Il y a toujours eu, après Waterloo en 1815, comme après Sedan en 1870, la France battue sur les théâtres européens pense qu'elle ne restera une grande puissance que si elle est présente outre-mer. C'est ce que disent les gens, notamment comme Jules Ferry.
Alors après Waterloo, ce sera sous le Second Empire, notamment la conquête... avant le Second Empire, pardon. Sous Louis-Philippe, la conquête de l'Algérie.
De l'Algérie, bien sûr.
Et puis ensuite, à partir de 1870, donc la Troisième République qui va étendre l'Empire dont vous parlez dans ce dictionnaire, grâce à son grand artisan, son principal artisan, plusieurs fois ministre et Premier ministre de la Troisième République, Jules Ferry.
Mon cher amiral, je viens vous présenter le nouveau député des Vosges, Monsieur Jules Ferry. Monsieur Jules Ferry est très renseigné. Il se passionne pour les colonies. À quoi aurait servi d'inventer le bateau à vapeur et le chemin de fer si on ne les utilise pas pour porter la civilisation à travers le monde?
Demandez la transigeance! Le retour de la mission Brazza à Paris! Demandez la transigeance! Vive Brazza!
Alors, nous le tenons, le Congo.
Alors, tu sais, les colonies, pour ce que ça rapporte.
Et l'ébène, l'ivoire, le manioc, le caoutchouc.
Et les fièvres? Tu as vu la figure de Brazza?
Et pour madame? À Brazza?
Hey, Brazza?
Qu'est-ce que c'est?
Crème de banane au lait de coco.
Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies? En Afrique, en Asie, chez le Raja ou le Sultan. Dans les banquets politiques, il y a toujours un orateur qui, le verre en main, s'explique et parle pendant une heure. Désormais, afin qu'il se taise la fanfare au premier mot, au lieu de jouer la Marseillaise, jouera fortissimo. Para, 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 para.
Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies? C'était une chanson de Tramel en 1931. Les colonies dont la conquête, Jean-Pierre Rioux, a suscité des polémiques dès le début, justement, de la construction de cet empire colonial de la Troisième République.
Oui, bien sûr, parce que comme on le disait à l'instant, au fond, aller outre-mer, développer l'empire colonial, y envoyer assez peu d'hommes. Finalement, la France est trop faible démographiquement au 19e et 20e siècle pour avoir, comme l'Allemagne ou l'Italie, à déverser des hommes outre-mer, ou les Britanniques qui vont faire la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. La France, c'est, je le répète toujours, l'idée que c'est au-delà des mers que l'on va compenser les défaites sur le théâtre européen et au fond que l'on va tenter de restaurer, revivifier une puissance, une présence de la France au monde.
Mais cette polémique, en fait, elle dépasse un peu les clivages partisans traditionnels. Vous vous rappelez une chose qui est quand même étonnante, quand on sait que la gauche était plutôt pour anticolonialiste et pour la fin des guerres coloniales au XXe siècle, elle était plutôt favorable à la colonisation au XIXe siècle, Jean-Pierre Rioux.
Bien sûr, bien sûr. Dès lors que, et là nous revenons à Jules Ferry, dont on entendait tout à l'heure quelques arguments, Jules Ferry a toujours mêlé trois arguments. Il n'avait pas du tout de pensée d'un système colonial, ni même d'une politique coloniale. Mais il disait trois choses. Un, et là c'est un raisonnement de l'époque, si je puis dire, c'est l'élu de Saint-Dié, l'élu du textile de Saint-Dié aussi, qui dit, écoutez, à l'époque moderne, la politique coloniale doit être fille de la politique industrielle. Bon, très bien, il s'agit d'être présent sur des marchés. Bon, mais il dit aussi, puisque nous sommes une république, et ça, c'est la France est tout à fait originale il faut que nous portions aux races, il faut que les races supérieures apportent quelque chose aux races inférieures.
C'est ce que dira en 25 voilà. Léon Blum.
Exactement.
Dans la bouche de Léon Blum, c'est encore plus surprenant.
Voilà, vous avez bien fait de le citer tout à l'heure. Et donc, la France, la République française, exporte en colonisant ses lumières, exporte son humanisme civilisateur.
Même le socialiste Jaurès au début soutient l'effort colonial.
Nous savons aussi combien, à propos de l'Algérie, la SFIO de Guy Mollet, au temps de la guerre d'Algérie, n'a pas hésité à faire envoyer le contingent en Algérie pour défendre la présence française en Algérie, que je sache.
Il y a quand même un couac à gauche en ce qui concerne la colonisation, c'est Clémenceau. Lui, Clémenceau, il est plutôt hostile, il fait plutôt partie du camp des voilà. adversaires alors, de la colonisation.
Oui, alors c'est pour ça. Le grand débat, il est en 1885 à la Chambre. Jules Ferry est menacé et va être abattu pour cause d'expédition au Tonkin et pour des difficultés à Madagascar. Donc, il est un empire. Alors, les trois arguments, je les répète. Le premier est l'économique. Le deuxième est l'humanisme civilisateur et les Lumières. On va les éclairer au passage, finalement. Hein. On va leur apporter du mieux, du plus, du bonheur, du mieux-être. Etc. Et trois, c'est le national. Une grande nation n'existe que si elle rayonne. Elle rayonne. Argument, alors là, considérable, qui ira jusqu'au bout, jusqu'au général de Gaulle. De Gaulle dit, il faut nous lâcher l'Algérie parce que l'avenir et la puissance de la France, il est désormais en nous-mêmes. Il est en Europe, il est dans l'Hexagone. Alors, Clémenceau a ça dit. Alors, il est un des rares. Hein, toute la gauche, comme on vient de le rappeler, est assez très partagée longtemps, socialiste compris. Clémenceau rétorque à Jules Ferry ceci, la phrase est absolument magnifique dans le débat de 1885, « N'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. »
Et il ajoute « Mon patriotisme est en France. » Il rejoint en cela la droite nationaliste, Déroulède, qui considère que l'essentiel, c'est la revanche contre l'Allemagne.
Absolument.
Il faut récupérer l'Alsace et la Lorraine perdues en 1870, plutôt que de distraire l'armée française en l'envoyant conquérir les colonies. « J'ai perdu deux sœurs », disait Déroulède, « vous m'offrez 20 domestiques ». Alors il y a aussi des lobbies, il y a le parti colonial, comme on l'appelait, qui lui aussi transcende un peu tous les clivages politiques de Jeanne Étienne, Jean-Pierre Rioux.
Tout à fait, comme on le disait en politique, puisqu'au fond, c'est quelqu'un qui ne se présente pas comme ni de droite ni de gauche et qu'on appelle le général de Gaulle qui a tourné la page, qui a refermé la boîte à chagrin en 1962, avec beaucoup de dégâts collatéraux. La question n'est pas là pour l'instant. C'est vrai que le lobbying colonial, le parti colonial a été très disparate, mêlant tout simplement des intellectuels soucieux d'apporter les lumières. Beaucoup de francs-maçons dans tout ça qui pensent qu'on va éclairer, le monde au passage. Beaucoup d'intérêts économiques, ça va de soi, des intérêts de médiation, de presse, beaucoup de transporteurs, beaucoup d'intérêts des grandes villes françaises ou des grands ports français comme Marseille qui sont tout à fait à la pointe du développement colonial et du commerce.
Et puis il y avait aussi le principal instrument de la conquête coloniale, l'armée.
Les soldats qui les premiers vinrent dans ces nouveaux pays étaient en même temps agriculteurs, ingénieurs, colons. Ils tracèrent les premières routes, lancèrent les premiers ponts et se mirent courageusement à défricher les terres. Puis le gouvernement français substitua aux directives isolées et incertaines des méthodes d'action de grande envergure. Nos possessions produisent d'abondantes richesses. La France n'en conserve d'ailleurs pas le monopole. Tous les pays peuvent s'approvisionner dans les colonies que son labeur a fécondées. L'indigène, dont le pouvoir d'achat sera accru, stimulera à son tour l'activité usinière et l'exportation des produits manufacturés de la métropole.
Alors c'était, on l'a déjà dit, le principal ou un des principaux arguments pour justifier la conquête coloniale, l'argument économique, le fait que les colonies, ça pouvait rapporter. Cela dit, Jean-Pierre Rioux, ça ne fait pas rêver. La colonisation a eu besoin d'autres arguments pour faire rêver, notamment l'armée. Hein. C'est l'instrument, évidemment, de la conquête et l'armée qui, d'une certaine manière, vous le disiez, cherche sa revanche. D'abord, elle a l'esprit d'aventure hein, et elle cherche au fond sa revanche sur les Allemands en colonisant, loin de l'Allemagne, en colonisant un empire gigantesque. Elle est vraiment à l'origine, elle est même parfois à l'initiative de la colonisation, c'est le cas de la marine en Indochine.
Effectivement, ce sont des initiatives et d'abord d'amiraux ou d'escadres qui croisent quelque part vers l'Indochine ou vers les cornes d'Afrique qui vont un peu plus loin que prévu et qui, au terme du droit de poursuite notamment, ajoutaient que la marine à l'époque est une marine à vapeur, qu'ils ont besoin de points de relais notamment pour faire du charbon et qu'il faut des bases navales pour s'alimenter. Toute chose que la Grande-Bretagne fait très très bien et plus que bien et que la France suit bien sûr. Bon. Alors l'armée, c'est vrai, et au fond, elle est à la fois extrêmement importante parce qu'elle est à l'initiative, c'est elle qui installe une présence française, mais ensuite elle va jouer un rôle déterminant et au fond beaucoup plus déterminant qu'elle ne l'imaginait souvent elle-même. C'est dès lors que l'armée compense comme elle peut les défaillances, alors je dirais, de la colonisation civile. Pour dire vite, la France n'a pas eu beaucoup de colons à installer, sauf dans la Mitidja, sauf un peu en Algérie.
On l'a entendu, elle défriche, elle construit
donc,
des routes.
L'armée se substitue, elle peut tenter la mettre en valeur, la mise en valeur, elle peut lancer l'administration, elle peut se substituer aux administrateurs qui sont souvent pas très nombreux et au début pas très bons, il faut bien le dire, souvent avec beaucoup d'aventuriers, beaucoup de gens qui font ça un peu par substitution et par compensation de beaucoup d'autres déceptions en métropole, parfois, mais en même temps, elle est constamment sur le qui-vive, parce que, quels que soient les accords avec les élites locales, quels que soient les accords avec les chefs, quels que soient les accords avec les petits émirs ou les rois telés, il y a quand même un territoire à surveiller constamment où la pacification, comme on disait, n'a jamais été totale.
Et c'est très brutal, avec des
retours de flammes, si je puis dire, constants. La violence initiale de la conquête qui a effectivement broyé et disloqué toutes les sociétés en place, quel qu'ait été leur état de développement, fait que ensuite il faut surveiller un milieu qui est toujours rétif au fond. Il est rétif, ça ne veut pas dire qu'il soit rebelle, mais il est toujours sur une espèce de qui-vive réciproque qui fait que l'armée c'est au fond épuisée à la fois parce qu'elle avait à faire plus qu'elle n'avait, si je puis dire, mais aussi parce que elle a été très très en charge d'un territoire toujours rétif. Et ça l'a beaucoup marqué.
Favorable à la conquête, il y a aussi l'Église au début.
Oui.
Celle qu'on verra plus tard, au contraire, prôner la décolonisation, prendre le parti de la fin de la guerre d'Algérie, par exemple. Elle est au 19e siècle, début 20e, favorable à la colonisation parce que c'est aussi l'expansion, c'est aussi la possibilité de conversion des peuples colonisés.
Tout à fait. Un mot encore, si vous permettez, sur l'armée, que j'ai oublié, parce qu'il est très important. L'intelligence, finalement, de l'armée sur place a été aussi de dire que les troupes indigènes, les supplétifs indigènes, qui allaient être enrôlés très vite, joueraient un rôle déterminant. Et c'était bien raisonné. Parce que, évidemment, les mésaventures guerrières de la métropole au cours des deux guerres mondiales, notamment, ont fait que, quand on dit armée, il faut toujours penser, évidemment, troupes indigènes aussi. Hein, et ce qu'on a pu appeler en 14 la force noire, par exemple, et ce qui a été au temps de la France libre, évidemment, pas de France libre sans secours des troupes de l'Empire. Alors, pour venir aux missionnaires, d'abord, les historiens, aujourd'hui, considèrent ça de manière peut-être un peu plus neuve et ça va être, je crois, révélé au grand public dans les années qui viennent. Ce sont plus souvent des femmes que des hommes, ce sont plus souvent des religieuses que des religieux, tout à fait, puisque le 19e siècle est un très grand siècle, vous le savez, pour les ordres religieux féminins. Et bon, bref, donc tout ce qui est très souvent alphabétisation, début d'édification d'une élite indigène auprès des chefs et des responsables. Bon, tout ça est une œuvre extrêmement importante, mais où les missionnaires sont toujours partagés, parce qu'ils sont toujours, hommes ou femmes, si j'ose dire, ils sont toujours partagés entre, au fond, le service de la patrie, bien sûr, et le service propre de leurs chrétiens indigènes qu'ils ont convertis.
Alors, il y a les missionnaires, mais il y a aussi une présence dont on dit qu'elle a apporté beaucoup dans les colonies. C'est bien sûr celle des médecins, la médecine qui a été très active, évidemment, qu'on mettait en avant. Là, il y avait aussi, bien entendu, les instituteurs qui étaient l'instrument de l'apport, si je puis dire, de la civilisation, pour employer le mot de Léon Blum, de ce que pouvait apporter aux indigènes, comme on les appelait, et comme on les appelait aussi quand ils venaient à Paris, justement à l'exposition coloniale de 1931.
Actuellement, à l'exposition coloniale, dans un pavillon qui se trouve dans le palais du Maroc, cette ligue fait tous les jours des cours d'abord pour les indigènes des souks tunisiens, algériens et marocains, ensuite pour les militaires du Soudan et du Sénégal.
Nous allons prendre la seconde leçon. Vous allez lire après moi. Ça c'est...
Oh
bon. Ça c'est...
Ah
alors,
excusez-moi ça.
Mère.
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 quittant son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. C'était Nénuphar, un joyeux lascar. Pour être élégant, c'est au pied qu'il mettait ses gants. Nénuphar, ça dure tard, mettez un petit rigolard. T'es nu comme un ver, tu as le nez en l'air et les cheveux en paille de fer. Nénuphar,
bah c'était la chanson officielle de cette exposition coloniale de 1931. C'est incroyable d'ailleurs cette espèce de condescendance dont manifestement on ne s'en rendait pas compte, dont on traitait ces Africains, ces négros comme le dit cette chanson, qui en plus venaient de loin pour assister au fond au spectacle, à la mise en scène de cet extraordinaire empire qui fascinait les gens, mais qui avait quelque chose de très humiliant bien sûr pour ceux qui étaient exposés presque comme des bêtes curieuses à Vincennes, cette expo coloniale à laquelle vous consacrez tout un chapitre, Jean-Pierre Rioux.
Oui, il faut soigneusement distinguer les lieux, parce que Nénuphar, t'as du retard, c'est pas partout. Il y a l'expo elle-même en 1931 à Vincennes, à l'entrée du bois de Vincennes, et sur l'emplacement actuel de la Porte Dorée et de la Cité nationale de l'immigration aujourd'hui. Là, c'est une grande exposition, assez bien orchestrée et dirigée par Lyoté lui-même, n'est-ce pas, qui est le principal commissaire de tout cela.
33 bon, millions de visiteurs
voilà,
en 6 mois.
Millions de visiteurs, ça veut dire que beaucoup de gens y vont plusieurs fois, on y traîne les enfants, c'est un très grand événement. Et alors, où les choses se gâtent, si j'ose dire, alors, il y a les pavillons, région par région, continent par continent, très bien.
Le temple d'Angkor Wat reconstitué à l'identique.
Voilà, des animations culturelles qui peuvent être folkloriques, mais qui ne sont jamais infamantes. Par contre, à l'extérieur, et notamment, par exemple, dans l'autre bois parisien, au bois de Boulogne, au jardin d'acclimatation, là, vous avez des véritables exhibitions d'indigènes qui tiennent, c'est vrai, du zoo humain. Et puis, vous avez le soir sur les boulevards, n'importe où dans Paris, les chansonniers, les spectacles qui font qu'il y a... On a des gens au bois de Vincennes, donc le soir, il faut bien les distraire un peu. Alors là, les chansonniers, ça va très, très loin. Ouais. Effectivement, on a ces chansons-là.
Alors,
très souvent.
C'est vraiment l'apogée de l'Empire. On en est fier, malgré tout. Et pourtant, c'est aussi le moment où l'anticolonialisme prend de l'importance. Le regard qu'on porte sur l'Empire n'est plus le même. On commence à en critiquer, bien sûr, les méfaits. C'est le cas, d'ailleurs, d'un très grand nombre d'écrivains. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, ce sera le cas, par exemple, de André Malraux, de Gide, de André Violis, qui écrit Indochine SOS en 1935, préféré par Malraux. Simenon, également, dans un livre qu'il critique, Albert Londres. Les critiques commencent à se multiplier, Jean-Pierre Rioux, à ce moment-là.
Oui, elles n'ont
pas... Les surréalistes interdisent qu'on aille à l'exposition coloniale.
Donc les années 20 et 30 sont le sommet, je dirais, de l'anticolonialisme littéraire ou des littérateurs, quel qu'il soit. Ça n'a jamais un effet décisif sur l'opinion, où l'anticolonialisme n'aura jamais beaucoup mordu. Mais il y a aussi un anticolonialisme politique assez actif, et notamment, y compris des minorités très actives à gauche, ça veut dire le Parti communiste.
Parti communiste contre l'expédition du Maroc, par exemple, qui
s'oppose à la guerre du Rif dans les années 20, avant d'avoir des solutions et des intentions un peu plus complexes après, dans les années 30 et 40 et 50. Mais peu importe. Effectivement, il y a là notamment des grands reportages. Vous avez cité Violis, on pourrait citer Albert Londres, on pourrait. Vous avez de grands écrivains qui là-bas, et notamment Le Voyage au Congo d'André Gide a été très lu, car c'est une description, c'est probablement une des meilleures descriptions. Les plus sèches, à la pointe sèche, vraiment, dans cette espèce de zone qui est la Cendrillon de l'Empire français, qui est le Congo, n'est-ce pas, qui est une zone totalement sous-administrée, et livrée, alors là, aux compagnies qui exploitent et surexploitent, y compris, il y a des dizaines de milliers de morts, notamment, pour construire le Congo océan, n'est-ce pas
et puis, évidemment, on fait remarquer une chose, c'est que cet empire de 100 millions d'habitants, dont on est fier, ces habitants, ils n'ont pas tous les mêmes droits, et notamment les droits politiques. D'ailleurs, c'est ce qui va ébranler l'Empire, c'est qu'ils n'ont pas les droits politiques, ils n'ont pas le droit de vote, sauf un petit nombre d'entre eux, mais en même temps, ils ont le droit d'aller se faire tuer pendant la Première, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce droit de vote, ils ne l'auront en fait jamais complètement. C'était une des principales revendications.
Exactement. Dès lors que La France, la République, est prise dans une contradiction insoluble là-bas, puisqu'elle prétend exporter les Lumières, exporter les droits de l'homme, mm-hmm. Mais elle n'en donne pas la traduction politique là-bas, puisqu'elle maintient un statut pour les indigènes. Elle dissocie très soigneusement, quand elle avance un peu, nationalité et citoyenneté. Donc, toutes les contradictions sont là, et avec un lieu qui est le ramassis de toutes les difficultés, toutes les contradictions, et dont on a fait aussi une vitrine, puisqu'on en a fait 3 départements français. Et ce lieu où tout s'exprime et se rassemble, ça s'appelle l'Algérie.
Et ces colonisés qui ont beau participer aux deux guerres mondiales, qui mesurent d'ailleurs à cette occasion la faiblesse de la métropole coloniale, n'obtiendront rien, même après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque commence une guerre, la première des deux guerres, qui allait conduire à la décolonisation.
Et voici maintenant l'émission des provinces outre-mer. Une réalisation du service des émissions coloniales.
Indochine.
Ah ouais.
AIF. Les actualités d'outre-mer. Un port, Marseille. Un navire, la ville de Strasbourg. Des hommes, ceux de la deuxième DB. Une destination, Indochine. Un seul drapeau, les trois couleurs. Une seule devise, liberté.
La sirène retentit. Les cœurs battent. Les braves de Leclerc, accoudés au bastingage, regardent s'éloigner cette terre de France.
Destination, vers l'Indochine.
Et vers l'Indochine, où allait commencer dès 1945-46 la première des deux guerres coloniales, pas à l'occasion desquelles et après lesquelles elle allait perdre son empire, à l'occasion desquelles aussi l'opinion est de plus en plus hostile à la conquête et même au maintien de la colonisation, de plus en plus favorable à la paix et à l'indépendance des peuples colonisés en France. Enfin, dans l'Empire colonial français.
Oui, il faut comprendre. L'opinion majoritairement a basculé très tôt, notamment dans le cas de la guerre d'Algérie dès 1956. Il est très clair qu'une grosse majorité de Françaises et de Français pensent qu'il faut tourner la page. Et qu'il faut, il faut comprendre ces gens. Il faut nous comprendre, si je puis dire, puisque il a été dit sans cesse que c'était la puissance qui s'exprimait là-bas. On s'aperçoit que la puissance, elle ne joue plus, et que la France entre à reculons et de manière catastrophique dans les processus de décolonisation. La France est le seul pays colonisateur qui s'offre une défaite militaire en rase campagne qui s'appelle Dien Bien Phu. Et qui, les Anglais n'ont pas eu ça, les Hollandais non plus.
Parce que tout simplement, eux ont fait ce que la France n'a pas fait, c'est-à-dire devancer au fond, accorder l'indépendance à leur colonie.
Ou reconnaître une certaine densité à l'autre face à l'un. Qui est le colonisateur, l'autre le colonisé, les Anglais ont toujours été très à l'aise. Ils n'ont jamais voulu en faire un. Ils n'ont jamais voulu l'éclairer.
La France, aujourd'hui, qui ne retient plus de cette époque, de cet épisode, que les méfaits de la colonisation, et au point il y a eu une polémique épouvantable à propos des bienfaits de la colonisation qu'il fallait que les enseignants apprennent. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a eu que des méfaits? Parce qu'on a l'impression qu'au fond, l'Empire a disparu, mais les polémiques continuent, Jean-Pierre Rioux, 40 ans après.
Les polémiques continuent, elles sont, il est vrai, soigneusement entretenues par des lobbies mémoriaux, plus que par une immense majorité de la population. Il n'y a pas eu évidemment que des choses condamnables. Il y a eu aussi beaucoup de métissage, beaucoup d'acculturation, beaucoup d'instruction, c'est évident. Le temps est peut-être venu de considérer ça d'un œil un peu plus historique. C'est ce qu'on essaye de faire les uns et les autres.
Et c'est ce que vous faites dans ce dictionnaire de la France coloniale, publié aux éditions Flammarion. Il est passionnant et je recommande de la lecture. À lire également Culture coloniale en France, de la Révolution française à nos jours, un ouvrage collectif qui vient d'être publié aux éditions du CNRS, et Naissance de la bonne conscience coloniale de Jennifer Pitts aux éditions de l'Atelier. Je signale également la manifestation L'Histoire en débat qui a lieu toute la semaine à l'espace Marcel Carnet de Saint-Michel-sur-Orge, avec notamment des rencontres animées par Antoine Spire. Le colonialisme français n'a-t-il eu que des effets négatifs? C'est le thème du débat de ce soir à 21h, auquel vous participerez Jean-Pierre Rioux, avec Marc Ferraud, Daniel Lefebvre et Catherine Kokrividovitch. Donc c'est à l'espace Marcel Carnet de Saint-Michel-sur-Orge. Vous avez pu entendre des extraits du film Brazza ou l'épopée du Congo de Léon Poirier, édité en cassette VHS aux éditions Documents cinématographiques. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Benjamin de la Gâtinée et Pierre-Yves de Rollin, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, l'histoire croisée de trois écrivains, Drieu-La Rochelle, Aragon et Malraux.